Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Retour sur le débat hier soir entre le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste. Libération des personnalités civiles et militaires arrêtées lors du coup d'État au Mali, nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Reportage à Libreville sur les conséquences de la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19.
Les chiffres sont énormes. Nous sommes aujourd'hui à 3150 licenciés et c'est incroyable, y compris également les gars qui sont mis en chômage technique.
En République démocratique du Congo, Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, annonce l'appui de son pays aux forces armées congolaises. Nous l'entendrons à l'occasion de sa tournée dans les deux provinces orientales du Nord et du Sud Kivu. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Élection américaine 2020, l'unique débat entre les deux principaux candidats à la vice-présidence, le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, a eu lieu mercredi soir à Salt Lake City dans l'Utah. La gestion de la pandémie du Covid-19 par l'administration Trump a dominé les échanges, d'autant plus que le président Trump, son épouse et nombre de ses collaborateurs sont infectés. Reportage de Mike O'Sullivan, le récit est de Lionel Gaïma.
Le débat de Salt Lake City a abordé un grand nombre de sujets, mais est fréquemment revenu sur la pandémie du Covid-19, dont la sénatrice Kamala Harris a qualifié la gestion par le président Trump de désastreuse.
Le peuple américain a été témoin du plus grand échec d'une administration présidentielle dans l'histoire de notre pays.
Pas du tout, a répliqué Mike Pence en soulignant que le président Trump avait limité les vols en provenance de la Chine, épicentre de la pandémie, ce qui, a-t-il dit, en a réduit la propagation de la maladie vers la fin janvier.
Et encore, le peuple américain a besoin de savoir. Joe Biden s'était opposé à la décision du président Trump de suspendre tous les vols en provenance de la Chine.
Pence a souligné que le président Trump avait intensifié les efforts en vue de tester la population et de trouver un vaccin. Harris a remis en cause le calendrier accéléré du président Trump pour la mise au point d'un vaccin.
Si les médecins nous disent de nous faire vacciner, je serai la première à m'aligner pour le faire. Absolument. Mais si Donald Trump nous le dit, je ne le ferai pas.
Mike Pence s'est inscrit en faux contre cette position.
Cessez de jouer à la politique avec la vie des gens. La réalité est que nous aurons un vaccin, nous le pensons, avant la fin de cette année.
La pandémie a mis à mal l'économie américaine, mais de l'avis de Kamala Harris, le problème a commencé bien avant le virus.
En raison de la soi-disant guerre commerciale contre la Chine, l'Amérique a perdu 300 000 emplois du secteur manufacturier.
Pas du tout, a répondu Mike Pence.
Perdu une guerre commerciale contre la Chine? Joe Biden n'en a jamais livré. Joe Biden a été une majorette de la Chine communiste au fil des dernières décennies.
Un autre sujet ayant fait l'objet d'âpres échanges entre les deux camps a été la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême pour succéder à la défunte juge Ruth Bader Ginsburg. Dans l'ensemble, le ton du débat était modéré, la tâche du colistier ou de la colistière étant d'éviter toute erreur pouvant négativement affecter leur candidat. Note les analystes. Andra Gillespie enseigne à l'université Emory.
Je pense qu'ils ont largement réussi à se garder de toute erreur. Le vice-président Pence est dans une différente position parce qu'il fait partie de l'administration sortante et donc il doit répondre des échecs et des succès de l'administration Trump.
Pour l'analyste Leach Meager de Randolph-Macon College, le débat des candidats à la vice-présidence était particulièrement important pour cette élection.
Les gens ne votent pas pour les vice-présidents, ils votent pour les présidents. Mais cette année est différente. Nous avons les candidats les plus âgés de l'histoire. Nous avons un président sortant qui a été diagnostiqué d'une très grave maladie.
Chaque candidat à la vice-présidence devra donc être prêt à succéder au président si ce dernier meurt en poste ou se trouve dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités. Une sombre perspective qui n'échappe pas aux Américains, alors qu'ils sont nombreux à avoir déjà voté par anticipation dans certains États.
Le président Donald Trump a fait savoir qu'il ne participerait pas au second débat présidentiel prévu jeudi prochain, après que la commission sur les débats présidentiels a annoncé que ce face-à-face sera virtuel afin, dit-elle, de protéger la santé et la sécurité de toutes les parties impliquées. C'est une perte de temps et ils vous coupent quand ils le veulent, a expliqué le chef de l'exécutif américain. Le débat devait se tenir sous la forme d'un forum citoyen avec les candidats répondant aux questions des membres du public. La campagne Biden avait annoncé que l'ancien vice-président était prêt à y participer. Le président Trump, qui se remet du Covid-19, est confiné à la Maison-Blanche depuis son retour lundi de l'hôpital militaire Walter Reed. Retour à l'actualité sur le continent. Au Mali, le CNSP a annoncé dans un communiqué la libération des personnalités politiques arrêtées lors du coup d'État du 18 août 2020. Parmi lesquels l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et Moussa Tembide, qui avait été élu président de l'Assemblée nationale le 11 mai 2020. L'ancien ministre de la Défense, Ibrahim Dahirou Dembélé, et l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Abdoulaye Koulibaly, figurent également sur la liste. Toutes ces personnalités restent à la disposition de la justice. C'est en principe dimanche prochain que le président ghanéen, président en exercice de la CDAO, arrive à Bamako. Nana Akufo-Addo vient apporter le soutien de la CDAO aux autorités de la transition. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'annonce de la libération des 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors du coup d'État a été faite par le vice-président de la transition, qui informe l'opinion de l'élargissement ce jour des personnalités politiques et publiques arrêtées suite aux événements du 18 août 2020. Le communiqué dans lequel cette annonce a été faite est signé par le Comité national pour le salut du peuple, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Parmi les personnalités libérées, on peut citer entre autres l'ancien Premier ministre Dr Boubou Cissé, l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Tembine, les généraux Ibrahim Dahirou Dembélé, Bemba Moussa Keïta et le colonel-major Fagimba Kansai. C'est ce qui ressort du communiqué publié sur les comptes Facebook et Twitter du CNSP. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice pour toute fin utile, ajoute le texte. Il faut signaler qu'avant la libération de ces personnalités, la CDAO avait salué la normalisation constitutionnelle à travers la mise en place des organes de la transition. C'est pour cela que le président ghanéen présent en exercice de la CDAO est attendu dans la capitale malienne le dimanche prochain. Nana Akufo-Addo vient apporter le soutien de la communauté internationale aux autorités de la transition malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, un camion-citerne rempli de gaz a explosé aux alentours de 6h du matin à la station-service de Barua Ipaja, un quartier de Lagos, la capitale économique. Il y aurait au moins 3 morts et les blessés gravement brûlés ont été transportés dans un hôpital à proximité. Plus de 40 maisons, 89 boutiques et plusieurs véhicules ont été incendiés. En République démocratique du Congo, le gouvernement a promis d'agir contre des agents des organisations internationales accusés d'abus sexuels lors de la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays. Par ailleurs, le Maroc a décidé aujourd'hui de prolonger d'un mois l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. En Algérie, un militant connu du mouvement de protestation Irak, Yassine Mebarki, a été condamné à 10 ans de prison ferme, notamment pour incitation à l'athéisme et offense à l'islam. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme s'est dit choquée par la lourdeur du verdict. Il s'agit de la plus lourde peine prononcée à l'encontre d'un militant du Irak depuis le début de la contestation en février 2019. Le gouvernement somalien a démenti hier tard dans la soirée la libération de deux médecins cubains enlevés en avril 2019 au Kenya. Une information annoncée la veille par une source policière kenyane. Les deux médecins, un généraliste et un chirurgien, faisaient partie d'un groupe d'une centaine de docteurs cubains déployés à travers le Kenya mi-2018 pour renforcer les services de soins de santé dans ce pays d'Afrique de l'Est. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Linden.
La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement ont procédé à la signature de trois accords de financement de 142 millions de dollars, soit un don de 72 millions et un prêt de 70 millions. Ces fonds, selon Financial Afrique, devraient permettre à la RDC de faire face à la pandémie de COVID-19. Cet appui budgétaire intervient dans un contexte économique difficile, renforcé par l'impact négatif de la crise sanitaire qui plombe les activités dans plusieurs secteurs. Au Cameroun, le prix du kilogramme de cacao connaît une légère hausse et coûte désormais 1050 francs CFA. Il se vendait jusqu'ici à 1000 francs CFA. Cette embellie, souligne CameroonInfo.net, contraste toutefois avec la saison des pluies, souvent caractérisée par une décote sur les prix des fèves. La tendance est à la hausse depuis l'année 2019, le prix du kilogramme étant passé d'une moyenne de 900 francs CFA au début du mois de février 2019 à 1000 francs CFA vers la fin de l'année. Précisons que le Cameroun est le cinquième producteur mondial de cacao. Deux femmes, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo Myung-hee, restent seules en lice dans la course pour le poste de chef de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux noms ont été annoncés officiellement jeudi en fin de matinée par le porte-parole de l'OMC. L'OMC, qui est en crise notamment à cause des assauts répétés de l'administration Trump, a jusqu'à présent toujours été dirigée par des hommes. Et la candidate retenue pour en prendre les rênes doit être désignée à l'issue d'ultimes tractations. Le troisième round de discussion, qui devra départager les deux prétendantes, aura lieu du 19 au 27 octobre prochain.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les étalons du Burkina Faso sont en stage à El Jadida au Maroc depuis le 5 octobre. Ils vont profiter des journées FIFA de deux semaines pour livrer deux matchs amicaux. Demain vendredi face au Léopard de la République démocratique du Congo et le 12 face au Barea de Madagascar. Sur place à El Jadida, voici le reportage de Kader Traoré.
Les étalons du Burkina en stage au Maroc depuis le 5 octobre dernier vont livrer deux matchs amicaux. Ce vendredi, ils seront face au Léopard de la RD Congo et le 12 octobre face au Balea de Madagascar. Les sélectionneurs nationaux Camou Malo répètent les gammes avec 23 poulains afin d'avoir les automatismes.
Moi, on a joué il y a longtemps. C'était déjà de remettre les garçons en ordre de bataille. Et cette journée va aiguiser encore et réveiller certains circuits qui étaient restés endormis depuis plus de 6 mois. Alors, vous avez vu les retrouvailles des uns et des autres. Et on va profiter de ce stage déjà pour préparer notre confrontation avec le Malawi en novembre. Parce que ça, c'est les qualifications de la Coupe d'Afrique.
Les joueurs sont très motivés en vue de réaliser deux belles prestations. Kader Traoré au Maroc pour VOA Afrique.
Athlétisme, l'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 10 000 mètres en 26 minutes 11 secondes hier soir à Valence en Espagne. Le champion du monde de 24 ans est face à des tablettes Kenenisa Bekele qui avait couru la distance en 26 minutes 17 secondes en août 2005 à Bruxelles. Cheptegei avait déjà dépossédé le légendaire éthiopien de son record du monde de 5000 mètres en août à Monaco en 12 minutes 35 secondes. Il détient donc désormais les deux records du monde du 5000 mètres et du 10 000 mètres. Chez les dames, l'éthiopienne Leti Sembet Gide a battu le record du monde du 5000 mètres en 14 minutes 6 secondes. Elle efface ainsi des tablettes sa compatriote Tirunesh Dibaba. qui avait parcouru la distance en 14 minutes 11 secondes en 2008. À 22 ans, Guidé s'offre ainsi le premier exploit de sa jeune carrière, un après avoir raflé la médaille d'argent du 10 000 mètres aux mondiaux de Doha.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, annonce l'appui de son pays aux forces armées congolaises. Comment s'explique cet appui? Notre correspondant Charlie Kasereka a recueilli les précisions de l'ambassadeur Michael Hammer à Goma lors de sa tournée dans les deux Kivu. Le dossier est dédié à Isango.
Michael Hammer, l'ambassadeur américain, était à Goma en tournée dans l'est de la RDC. Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka, lui a posé la question sur l'appui américain dans la lutte contre les groupes armés. Écoutons Michael Hammer.
J'avais écouté la préoccupation de la population de Beni. Ils ont toute la raison que les ADF terrorisent et brutalisent la population. Les États-Unis, à travers de la MONUSCO, essayent de protéger les personnes innocentes et aussi d'encourager, à travers le mandat de MONUSCO, que la FIB, que c'est les troupes de SADC de Sud-Afrique, Tanzanie et Malawi, qu'ils ont des opérations offensives contre les ADF en coordination avec les FARDC. La responsabilité de la sécurité et la souveraineté de la RDC, c'est bien sûr la FARDC. Mais il y a de intérêt par la part de la communauté internationale de promouvoir la paix et la stabilité. Nous sommes en train de soutenir ces efforts, mais c'est très très compliqué. Vous parlez des liens avec les djihadistes et ISIS, bien sûr, nous sommes très préoccupés. En effet, les États-Unis ont coupé le financement à cette groupe à travers des sanctions à quelques de leurs leaders de l'ADF. Et quand le président Tshisekedi a fait son discours à les Nations Unies et a demandé que la communauté internationale l'aide avec les sanctions financières contre ces groupes, c'est quelque chose que les États-Unis soutiennent. J'espère que des autres pays feront la même chose et aussi que le meilleur contrôle de la frontière. C'est très important d'avoir la coopération avec les pays voisins. Mais c'est ponctuel.
Quant à la reprise de la coopération militaire, Michael Hammer a expliqué à Charlie Kasereka que les États-Unis ont constaté une évolution positive dans les chefs de l'armée congolaise, suivant Michael Hammer.
Historiquement, la FARDC a eu beaucoup de problèmes avec violation des droits de l'homme, avec corruption, et ça ne fait pas possible que les États-Unis soutiennent avec des armements et des soutiens très forts militaires. Mais à cause de qu'il y avait eu un changement, il y a eu une amélioration dans la conduite de l'État. ADC et aussi parce qu'il y a eu des progrès contre la traite humaine. Les États-Unis ont commencé déjà de faire des trainings pour les militaires de la FARDC et aussi aidera à construire des casernes. C'est nécessaire de continuer à faire les réformes importantes dans la FARDC. Ça sera possible qu'en l'avenir, les États-Unis peuvent donner plus de soutien. Ce n'est pas possible d'avoir la paix à l'Est sans que tous travaillent ensemble pour couper l'appui à les groupes armés. Pour avoir une économie légale, pas illégale.
Qu'a-t-il constaté à Minembwe, d'où il revient? Réponse de Michael Hammer à Charlie Kasereka.
À Minembwe, Mininke et aussi à Biombo. Quand j'étais là, j'ai vu que MONUSCO, un partenariat avec la FARDC, peut protéger des personnes. Mais spécialement à Biombo, il y a plus de 12 000 déplacés qui ont besoin de l'aide humanitaire. Je suis vraiment préoccupé que l'aide humanitaire n'arrive pas à Minembwe, à Kende et aussi à Biombo.
C'était l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Michael Hammer, de passage à Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, un récent rapport du Programme des Nations Unies pour le développement alerte sur les conséquences de la double crise sanitaire et économique dans le pays. Plus de 100 000 emplois sont touchés à l'échelle nationale. Port-Gentil, la capitale économique qui produit plus de 80% des recettes du budget du Gabon, en souffre davantage avec la paralysie des sociétés de sous-traitance pétrolière. Reportage à Port-Gentil de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dave Makaya est en chômage depuis près de 5 ans. Le déflatté du secteur pétrolier s'est reconverti en pêcheur pour nourrir sa famille, dont l'espoir de trouver un emploi devient mince à Port-Gentil.
Pour déposer les dossiers, mais c'est difficile.
La capitale économique du Gabon est mal en point. La plupart des sociétés qui font sa réputation de petit Eldorado sont asphyxiées par les impacts conjugués de la crise sanitaire et de la crise socio-économique qui s'en est suivie. Cynthia Malekou et une cinquantaine de ses collègues se disent victimes d'un licenciement abusif. Comptable d'entreprise, elle s'est vue notifier une lettre de mise en congé technique, laquelle a finalement débouché sur sa radiation des effectifs avec un solde de tout compte pays.
Ils ont bafoué le code du travail, ils ont bafoué les autorités compétentes de la place, ils ont bafoué toutes les procédures de licenciement.
En effet, le gouvernement gabonais avait exigé des entreprises locales le maintien des emplois dans ce contexte difficile. Mais si les majors de l'or noir affichent une apparente embellie dans leur fonctionnement, c'est loin du cas des sous-traitants des services connexes, dont Edzo est gérant de petites et moyennes entreprises du pétrole.
On avait un effectif de 150 employés. On se retrouve aujourd'hui avec un effectif de 75 employés. Vous pouvez imaginer vous-même ce que ça peut donner comme perte financière.
Nous sommes sur le site de l'exploration et production du pétrole à Port-Gentil, un site devenu par endroits presque un désert industriel. Les statistiques de la toute puissante Organisation nationale des employés du pétrole sont alarmantes. Kléber Ngadi est le secrétaire national de l'ONEP.
Les chiffres sont énormes. Nous sommes aujourd'hui à 3150 licenciés et c'est incroyable, y compris également les gars qui sont mis en chômage technique. Nous avons par exemple à côté cette entreprise que je citais si peu là, CTPM, a mis presque son personnel en chômage technique. Avec la baisse du baril du pétrole, les entreprises pétrolières se sont senties presque touchées avec les taxes et les impôts que l'État imposait pour certaines entreprises.
Selon les données officielles de la loi des finances rectificatives 2020, du fait du Covid-19, le produit intérieur brut du Gabon serait en chute de 4,5%, passant d'une prévision initiale de 3,8% à moins 0,8%. Ismaël Obionzé pour VOA Afrique, Port-Gentil.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les enseignants du primaire et du secondaire sont soulagés. Le gouvernement fédéral a approuvé une nouvelle grille salariale spéciale pour eux et augmenté leurs années de service de 35 à 40 ans. La fermeture des écoles, provoquée par la pandémie de Covid-19, a affecté plus de 39 millions d'étudiants et d'élèves et plus de 1,5 million d'enseignants au Nigeria, a fait savoir le président Muhammadu Buhari. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour le président Buhari, ces annonces s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour revitaliser la profession enseignante au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants. Le gouvernement a également augmenté l'âge de la retraite des enseignants de 60 à 65 ans. Les enseignants se sont souvent plaints d'être mal payés, insistant sur le fait que les maigres salaires décourageaient beaucoup à s'engager dans la profession de l'enseignement, une situation qui a conduit à la baisse du niveau d'éducation dans le pays. Le syndicat nigérien des enseignants se félicite du geste du gouvernement. Emmanuel Wande est son porte-parole.
C'était une grande joie pour les enseignants à travers le pays d'apprendre par le ministre de l'Éducation nationale que le président Muhammadu Buhari a approuvé la nouvelle grille salariale spéciale. Cette nouvelle grille salariale est une demande du syndicat depuis longtemps.
Parmi les autres décisions annoncées par le gouvernement, il y a l'allocation de prêts au logement. Les enfants des enseignants des écoles primaires et secondaires publiques doivent être exemptés du paiement des frais de scolarité. Toutes ces annonces du gouvernement sont certes saluées, mais elles soulèvent des interrogations sur leur date de mise en œuvre. Le professeur Djibril Ibrahim du département des sciences politiques de l'université d'Abuja.
Je crains que peut-être c'est simplement une promesse plutôt qu'une politique qui va être mise en œuvre, puisqu'on sait tous qu'à ce moment-ci, le gouvernement nigérien souffre des manques de revenus et donc la capacité de payer cette nouvelle grille salariale.
Des inquiétudes que partagent certains leaders des organisations de la société civile comme Hamza Laval du Code.
Je suis inquiet parce que nous nous battons toujours contre la pandémie. Et connaissant bien que notre économie est faible, on pourrait retomber dans une récession. Le pays n'a pas d'argent. Nous avons assez de dettes et je me demande comment le gouvernement fédéral va réunir des fonds nécessaires pour assurer que la rémunération des enseignants et cette nouvelle politique soient appliquées.
C'est aussi l'avis de Fethi Mbadiki de l'ONG, l'Initiative pour la transparence des industries extractives.
Maintenant que cette annonce a été faite, elle devait prendre effet immédiatement. Mais cela ne figure pas dans le présent budget. Qu'est-ce qui nous rassure que sa mise en œuvre sera effective, à moins que le gouvernement fédéral pense soumettre un budget?
L'initiative du président ne fait pas aussi l'unanimité pour le moment des 36 États de la Fédération. Certains États comme Kanu dans le nord, Kogi au centre et Delta dans le sud, entre autres, affirment qu'ils vont étudier ces annonces. Mais l'État de Lagos a déjà fait savoir que le gouvernement fédéral ne peut pas dicter aux États ce qu'il faut payer à leurs enseignants. Les enseignants réclament depuis plusieurs années une augmentation des salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la rentrée des classes dans plusieurs pays africains dans un contexte de pandémie. Alors que le COVID-19 continue de sévir, plusieurs gouvernements ont décidé de rouvrir les écoles en adaptant les enseignements au nouveau contexte. Comment assurer la sécurité des élèves et des enseignants tout en dispensant un enseignement de qualité malgré les restrictions? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 8 octobre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2020, l'augmentation sans précédent du vote par anticipation se traduit par de longues files d'attente devant les bureaux de vote. Une organisation non partisane, Pizza to Polls, de la pizza aux urnes, a décidé de faciliter, à sa manière, l'accomplissement du devoir citoyen cette année. Reportage de Karina Bafradzian, le récit est de Michel Joseph.
Scott Duncombe, développeur web de Portland dans l'État de l'Oregon, s'est donné une importante mission en cette saison électorale. Veiller à ce qu'aucun électeur ne souffre de la faim. Avec ses amis Katie et Noah, Duncombe a lancé Pizza to the Polls, pizza aux urnes, pour livrer gratuitement de la pizza au bureau de vote.
Mes amis et moi regardions le vote anticipé en 2016 et nous avons vu qu'il y avait de trop longues files d'attente. Il nous restait un peu d'argent supplémentaire de notre projet concernant les élections. Et nous avons pensé, eh bien, peut-être que nous pouvons simplement envoyer des pizzas aux gens. Et donc, nous l'avons fait et les gens dans les rangs étaient vraiment heureux. Et nous avons créé le projet.
Lors de la saison électorale 2016, Scott et ses amis ont reçu plus de 40 000 dollars en dons, des fonds qui leur ont permis de livrer de la pizza dans 24 États. L'ONG Pizza aux urnes a reçu des commandes de 41 États pendant les élections de mi-mandat de 2018, ce qui lui a permis de livrer plus de 10 000 pizzas à 611 bureaux de vote. Les électeurs téléchargent des images de longues files d'attente sur Twitter et y ajoutent l'adresse du bureau de vote. Les volontaires de l'ONG placent des commandes dans des pizzerias locales et délivrent les pizzas. L'ONG avait songé à d'autres produits alimentaires, mais la pizza s'est avérée la meilleure option, affirme Scott.
Tout d'abord, il y a une pizzeria dans presque toutes les villes d'Amérique, de New York au Dakota du Nord. Dans tous ces États, nous pourrions trouver une pizzeria où nous pourrions commander des pizzas en ligne et livrer. C'est donc vraiment génial, vraiment utile. Deuxièmement, la pizza est chaude et généralement froide pendant la saison électorale en novembre.
Distribuer de la nourriture en ces temps de COVID-19 pourrait paraître risqué. Mais l'ONG a pensé à ce problème, explique son fondateur.
Les gens peuvent venir un par un et l'ouvrir. Nous ne nous contentons pas de marcher le long du rang avec une boîte à pizza ouverte, ce qui est tout à fait logique car vous ne voulez pas qu'il y ait trop de monde.
Le 3 novembre, Scott et ses centaines de volontaires nourriront des milliers d'électeurs à travers les États-Unis, persuadés que personne ne doit voter le ventre creux.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente